Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyn Moussa Oponde.
Tractation autour de l'examen de la proposition de la loi électorale, le groupe de 13 parlementaires propose au bureau de l'Assemblée nationale une méthodologie beaucoup plus consensuelle. 9 personnes parmi les nouveaux déplacés sont mortes en l'espace de 5 jours à Commanda Centre. C'est la conséquence des conditions de vie très difficiles de ces vulnérables et enfuit les attaques des ADF, indique la société civile. Notre invité, c'est Salomon Iti Kalonda, le conseiller spécial en charge de questions politiques de Moïse Katumbi et président initiateur de l'ASBL Dynamique Escadela pour le développement finance les travaux de réhabilitation du tronçon routier Kindu Kibombo dans le Maniema. Bonjour à tous. Tractation autour de l'examen de la proposition de la loi électorale. Le groupe de 13 parlementaires et personnalités politiques, le G13, propose au cours d'une audience hier mardi avec le bureau Mbosso une méthodologie beaucoup plus consensuelle. Initiateur de la proposition de loi portant révision de la loi électorale dont l'examen et les débats généraux commencent en principe ce mercredi. Le G13 propose au bureau Mbosso des lunettes de lecture de ce texte de loi majeure pour la préparation des élections en RDC. Et toujours hier mardi, sur la même problématique, le duo Cinco-SCC a rencontré aussi le bureau de l'Assemblée nationale pour rendre compte de leur tournée auprès des acteurs majeurs et parties prenantes au processus électoral en RDC. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Une semaine environ après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, le révérend Eric Senga de l'Église du Christ au Congo SCC et Monseigneur Donatien Chollet de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO sont revenus faire le point de leur discussion avec Christophe Mbosso. Monseigneur Donatien Chollet.
Il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées. Nous avons été édifiés de l'ouverture par rapport à la loi électorale. Nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus.
De son côté, le G13 a soutenu l'option de recueillir les amendements des groupes parlementaires afin de dégager et renforcer le consensus politique autour de la loi électorale. Daniel Moukoko Samba.
La proposition de loi déposée par le G13 est elle-même le produit d'un large consensus. Parce que le G13 avait rencontré toutes les couches sociales. Mais aujourd'hui, le texte est à l'Assemblée. C'est au sein de l'Assemblée que ce débat va avoir lieu.
Dans le même ordre d'idées, le G13 a salué la proposition prise par le président de l'Assemblée nationale qui a défini la méthodologie d'un débat apaisé et éclairé pouvant permettre aux Congolais de comprendre les grandes innovations proposées par cette loi électorale.
En Ituri, parmi les déplacés affluents à Commanda Centre, 75 km au sud de Bounia dans les territoires d'Irumu, on dénombre 9 morts en l'espace de 5 jours. Selon la société civile locale, c'est la conséquence des conditions de vie très difficiles de ces vulnérables qui ont fui les attaques des ADF. Cette structure appelle à une intervention rapide des autorités et des humanitaires pour éviter le pire. Martial Kizabiamongo nous fait le point.
Ces familles de déplacés estimées par la société civile à un milieu vivant à Commanda Centre proviennent des villages Mugamba, Bamande, Kawanza, Kandoui, Bandiboli, Vonkutu et Mangusso sur l'axe Commanda Mambasa. Elles se sont installées dans les cours des écoles, les églises, les maisons abandonnées et d'autres dans des familles d'accueil. Selon la société civile locale, ces vulnérables manquent de quoi manger et passent la nuit à la Belle Étoile, exposée aux intempéries. Cette structure citoyenne dit avoir dénombré, dit samedi dernier à ce jour, 9 morts parmi s'est déplacé, une conséquence de leurs conditions de vie précaires. Au nombre de morts, 4 enfants et 2 personnes de troisième âge. Afin de freiner cette mortalité, la société civile plaide pour une assistance d'urgence en nourriture et en abri à ces personnes dépourvues de tout. L'administrateur du territoire d'Irumu, conscient de la situation, dit avoir déjà fait les rapports au gouverneur de province pour une intervention rapide et pour créer les conditions d'un retour volontaire de ces déplacés dans l'air milieu d'origine. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, dans le territoire de Djougou, trois personnes, dont deux femmes et un homme, ont été lâchement abattues par des hommes armés identifiés aux assaillants ARDPC, une faction de la CODECO, hier soir à Diambou, à 7 km de Fataki Centre. Selon des activistes de droits humains sur place, les victimes ont été tuées dans leur champ, ce qui porte à 6 le nombre de civils tués dans la même région en l'espace de 3 jours. Une situation qui pousse des habitants à vider les lieux. Encore une fois, retrouvons Martial Kizabiamongo pour le point.
Les drames et survédis aux petites heures de la soirée de mardi. Une dizaine de personnes ont été surprises dans leur champ par une colonne d'hommes armés identifiés aux assaillants de l'armée des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, RDPC, une faction de la CODECO en provenance du village Drudza. Selon des activistes des droits humains de la région qui citent des rescapés, ces malfrats ont tiré à bout portant sur ces paysans qui cherchaient à manger. S'en est suivi un sauve-qui-paie. Dans la confusion, trois personnes seront touchées par balles et mortes sur les champs. Trois autres seront gravement blessées. La même source indique qu'avant de retourner sur leurs pas, ces bandits armés ont pris en otage une femme. Ce mercredi matin, une équipe d'activistes des droits humains et des autorités coutumières s'est rendue sur les lieux du drame à la recherche d'éventuels autres corps sans succès pour le moment. Le lundi dernier, trois autres personnes, toutes déplacées, ont été tuées par ces rebelles en Ngokoni dans la même région. Plusieurs familles ont fui pour se diriger au groupement Mbrudou proche de Dzina. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 5 véhicules transportant des marchandises ont été brûlés par des présumés rebelles ADF hier après-midi sur la route nationale numéro 4, tronçant Beni Kasindi. C'était au cours d'une nouvelle embuscade tendue par ces hors-la-loi au niveau de Kiaviboko Miende, un village de la localité Rugitsi dans le secteur de Rouenzori en territoire de Beni. Aucun bilan humain n'a jusque-là été rapporté. André Kitenge pour les détails.
C'est aux environs des 16 heures heure locale que ces 5 véhicules transportant des marchandises en provenance de Kasindi pour Beni sont tombés dans cette embuscade attribuée aux rebelles ADF. Le coordonnateur de la nouvelle société congolaise du secteur des Rouenzori, qui cite des rescapés, affirme que les conducteurs de ces véhicules, dont deux gros camions, ont réussi à s'échapper. Mais le Kimulala indique que les assaillants ont d'abord emporté une bonne quantité de marchandises avant de brûler les véhicules. Informés, les casques bleus de la MONUSCO et les forces des opérations conjointes de deux armées congolaises et ougandaises présentes dans la région ont vite accouru, mais arrivés après l'attaque à cause de la distance qui sépare leur position du lieu de l'embuscade. Cette situation a perturbé momentanément le trafic routier sur cet axe d'intérêt économique. Contacté, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Ingrand Nord promet de se prononcer à ce sujet dès que possible. Pour l'instant, un calme apparent règne dans la zone, indique la nouvelle société civile congolaise du secteur des Rouenzori, qui confirme également la reprise timide du trafic. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Direction le Haut-Katanga, où les différentes stations-service de Lubumbashi sont fermées. Certains pétroliers contactés indiquent que la nouvelle structure des prix publiée par le gouvernement ne leur permet pas de renouveler les stocks. Entre-temps, certains revendeurs fixent jusqu'à 5000 francs congolais le prix du litre. Les détails avec Jean Gandou.
Depuis ce mercredi matin, les automobilistes ont du mal à s'acheter du carburant dans les différentes stations-service de Lubumbashi. Pour les pétroliers, le prix de 2695 francs congolais le litre d'essence fixé par le gouvernement dans la zone sud ne reflète pas la réalité de prix qui sont d'application sur les marchés internationaux. Ils préconisent ainsi qu'un litre de carburant soit fixé à 3600 francs congolais pour leur permettre de se retrouver notamment dans leur trésorerie. Ils rappellent aussi que le gouvernement qui a pris l'option de subventionner les produits pétroliers s'exécute à peine. Pour eux, l'État congolais ne paye le manque à gagner qu'aux entreprises multinationales. De ce fait, il leur est difficile de passer de nouvelles commandes quand on sait que la zone sud consomme entre 75 et 100 000 mètres cubes le mois. Sur le terrain, les revendeurs profitent pour augmenter le prix. Il y en a qui vendent le prix d'essence à 4 500, voire 5 000 francs congolais. Les chauffeurs de taxis et taxibus qui s'approvisionnent auprès d'eux ont également revu les prix de la course. Face à cette situation, certaines personnes ont rallié le centre-ville de Lubumbashi à pied. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Rendons-nous à Mbandaka, rapatriement depuis mardi de la dépouille mortelle de l'étudiant qui a été abattu le 12 avril dernier lors des échauffourées avec la police. Les autorités provinciales ont remis aux parents le corps de Freddy Bobamé pour son inhumation dans son village d'origine. C'est dans les territoires de Bungandanga, province de la Mongala, à environ 400 km en amont de Mbandaka. Entre-temps, le procès en procédure des flagrances du policier meurtrier se poursuit à l'auditorat militaire garnison de Mbandaka. Éclairage avec Paul Richard Malengela.
C'est sous le coup des 15h45 locales que le corps de l'étudiant Freddy Bomamé Bombo a quitté la morgue du CHU Mbandaka. C'était en présence des autorités provinciales, dont le gouverneur Boboloko, qui a pris en charge les frais funéraires et de transport du corps. Voilà pourquoi le père du défunt, Henri Abel Mbombo, n'a pas caché sa gratitude.
Pour
le rapatriement de ce corps au village natal, vraiment je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les autorités provinciales pour leur main forte. Merci à vous, monsieur le gouverneur, pour les efforts consenti afin que la dépouille de mon fils quitte cette ville jusqu'à son propre village. À propos de l'établissement d'appartenance de son fils, Papa Mbombo a affirmé qu'il fréquentait l'ISTEM Mbandaka. Je l'avais envoyé étudier à l'ISTEM, de même que j'ai étudié à l'ISTEM chez nous. J'ai fait un effort pour que mon fils étudie à l'ISTEM Mbandaka. D'abord en G1 et cette année il était en G2. Le retrait du corps a eu lieu en toute discrétion, tel que convenu avec la famille, afin d'éviter une nouvelle escalade avec les étudiants. Il a été embarqué dans une pirogue motorisée jusqu'au groupement Bosomodanda où il sera inhumé à son arrivée prévue le mercredi soir. Entre-temps, le tribunal militaire de garnison de Mbandaka, qui a ouvert un procès en flagrance au lendemain du meurtre et pris l'affaire en délibéré, va plutôt rendre son verdict ce jeudi. Mbandaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Les populations de plusieurs villages des territoires de Popokabaka et de Kasongolunda sont dans l'allégresse de voir, pour la toute première fois après plus de 7 ans, le passage lundi dernier d'un gros véhicule sur la route principale qui relie ces deux entités dans la province du Kwango. Passage rendu possible grâce à la reconstruction avec le concours financier du député national Pasiza Pamba, élu de Popokabaka, du pont Loaï qui était effondré, coupant ainsi totalement le trafic des véhicules sur cette route durant toute cette période. L'administrateur du territoire de Popokabaka, Jean-Fidèle Ipama, qui le dit, indique que ce premier véhicule qui est arrivé au chef-lieu de Popokabaka est venu pour une urgence, celle de déposer plusieurs matériels pour les travaux d'un réseau cellulaire. Irène Boma pour plus de détails.
Dans un entretien téléphonique, l'administrateur du territoire de Popokabaka a déclaré que cela fait plus de 7 ans qu'aucun véhicule n'est arrivé à Popokabaka cité, passant par la route principale qui relie ce territoire à celui de Kasongolunda. Cela à cause de l'écroulement depuis plusieurs années du pont Loaï situé sur cette route et qui avait totalement coupé le trafic. Mais grâce à la reconstruction de ce pont, un gros véhicule en partance de Kinshasa pour cette cité vient de passer pour la toute première fois sur cette route. Selon Fidèle Ipama, le passage de ces véhicules a constitué un grand événement erré pour la population de plusieurs villages de ce coin, surtout pour les enfants qui n'ont jamais vu un véhicule.
Un gros véhicule qui est de Kinshasa pour déposer des matériels pour des antennes d'Orange. C'est temps durant, aucun gros véhicule ne passait, même le jeep, parce qu'il n'y avait pas de passage. C'est le premier véhicule avec un tonnage de 20 qui est passé pour la première fois. Popokabaka est dans l'allégresse parce que le pont est réhabilité. Il y a des enfants de 7 ans qui ont vu pour la première fois un gros véhicule de ce côté-là. Donc toute la région de Yonzo est dans l'allégresse. Même les gens de Kasongolunda, ils sont dans la joie parce que les véhicules vont passer de Popokabaka juste là.
Il y a lieu de signaler que dans un bref délai, interviendra l'inauguration du pont Loaï. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au 56e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Mariupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus. À Madagascar, le rapport Barossi du baromètre citoyen doit être publié ce mercredi 20 avril, un outil créé cette année par l'ONG Ivoirari pour mesurer la performance des élus et plus particulièrement des présidents de la République.
L'invité.
Notre invité, c'est le conseiller spécial en charge de questions politiques de Moïse Katumbi et président initiateur de l'ASBL Dynamique Escadela pour le développement des SKD. Salomon Idikalonda finance les travaux de réhabilitation du tronçon routier Kindu Kibombo, long de 150 km. Après un séjour à Kindu, il nous parle de l'évolution de ces travaux et des conditions de vie de la population du Maniema. Salomon Idikalonda s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Salomon Idikalonda, bonjour.
Bonjour.
Fin de votre séjour au Maniema, peut-on savoir le bilan de votre mission?
Oui, merci beaucoup. Le bilan, peut-être trop dire, mais le constat est très amer par rapport à la situation socio-économique de la population du Maniema. Je savais que le Maniema était enclavé, mais je ne pouvais pas m'imaginer que les denrées de première nécessité étaient aussi coûteux au Maniema. Les trains n'arrivent pas, et donc même les sucres, les sels, c'est vraiment pénible pour la population du Maniema. Ne parlons pas de produits comme les riz qui est produit ici sur place au Maniema, le manioc, tout ça, parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation, parce qu'il n'y a pas de route de desserte agricole, et donc à Kindu, les gens paient cher le manger, c'est inconcevable. Dans ces pays où il y a parfois, même au Maniema, des saisons de pluie. Mais malheureusement, les gens ne sont plus encouragés d'aller au champ du fait qu'il n'y a pas de route de desserte agricole. Voilà pourquoi moi-même, en tant que fils du pays, je m'étais donné l'obligation de donner au moins un exemple. Et c'est cet exemple, c'est la route Kindu Kibombo, que j'ai fait un partenariat avec l'Office des routes et le gouvernorat du Maniema pour effectivement essayer tant soit peu d'alléger la misère de cette population.
Vous vous êtes personnellement rendu sur les lieux des travaux. Comment qualifiez-vous ces travaux qui sont exécutés par Office des routes?
Oui, il y a comme dans tout projet, il y a du positif et du négatif. Je vais commencer par les négatifs parce que c'est ça que la population est en train de déplorer. C'est la lenteur d'exécution des travaux de cette route. Vous savez, une population qui n'a pas vu des engins passer sur cette route pour plus de 50 ans, eux, ils voudraient voir cette route vite réhabilitée et vite utilisée. Alors que il y a des aléas, il y a des problèmes techniques et parfois l'exécution qui n'est pas très finie. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ils ont déjà travaillé et que les bourbiers commencent. Et là, c'est un problème des matériaux, parce que vous imaginez, il y a aussi un problème. Dans d'autres provinces, moi, heureusement, j'ai travaillé au Katanga. Quand on faisait des routes, on n'achetait pas la terre, on n'achetait pas la latérite. Les carrières pour les routes d'intérêt général étaient données. Mais ici, on est obligé d'acheter la latérite pour réparer une route d'intérêt général. C'est impossible. Et d'ailleurs, je vais adresser un courrier aux autorités provinciales pour qu'elles nous aident, ces autorités, pour que demain, qu'on donne une carrière à l'Office des routes pour avoir les matériaux des rechargements. Parce que c'est pas possible qu'on commence à acheter la terre même pour nous aider à ce qu'on puisse réparer la route. Et les points positifs, c'est qu'il n'y avait plus de route. Il y avait un sentier. Aujourd'hui, on commence à refaire une route large de 7 mètres, alors qu'il y avait des sentiers d'un mètre ou de 50 centimètres. Nous sommes rassurés et les gens de l'Office des routes sont déterminés pour qu'on avance avec ces projets et j'ai garanti mon implication personnelle pour qu'on arrive jusqu'à bout du projet.
La province du Maniema n'est pas seulement la route Kindu Kibombo. Que comptez-vous faire pour les autres routes qui sont impraticables?
Heureusement, je vous ai dit que je ne fais qu'un exemple en tant que fils du pays. Je n'ai pas la possibilité ni la prétention de faire tout dans le Maniema. Pas du tout. Je donne un petit exemple si les autres peuvent emboîter les pas. Et surtout, c'est la responsabilité du gouvernement. Et donc, nous, on va inciter plutôt au gouvernement. On va pousser à ce que le gouvernement, on va faire des plaidoyers pour dire que non, c'est pas possible. Quand j'allais sur la route Kibombo, j'ai vu des fruits qui pourrissent parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les manger. Alors que ces fruits-là, à Lubumbashi par exemple, ça vient de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Donc, ces fruits peuvent quitter le Maniema pour aller approvisionner les gens du Katanga. Mais vous voyez, cette richesse-là. Et ça, ce n'est qu'une partie. Je parle de fruits, mais j'ai vu les champs du riz et les riz qui est en train de pourrir là-bas parce qu'ils ne savent pas acheminer. Et donc, moi, à mon niveau, je ne pourrais faire que quelque chose qui est symbolique. Mais au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial, il doit faire encore beaucoup d'efforts.
Bien sûr que vous avez palpé du doigt les problèmes de la population du Maniema. Quel serait alors ton appel au gouvernement?
Oui, heureusement, je remercie encore le gouverneur de province qui m'a reçu. On a parlé. Il est conscient de la situation. Et donc, quand on va partir, au niveau central aussi, on va faire passer les messages parce que c'est intolérable et on ne peut pas ne pas nous impliquer pour que la situation change.
Merci à vous, Monsieur Salomon Id Kalonda.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.